je me suis dit que cette fois-ci, j'allais faire les choses différemment. Plutôt que de contacter quelqu'un pour lui demander de parler d'un truc précis, j'allais demander à quelqu'un de quoi il avait envie de parler. Bon, en l'occurrence, le quelqu'un que j'ai choisi n'est pas n'importe qui. C'est Millet Douy. Dans le monde du numérique, il est connu comme le loup blanc parce qu'il est aussi rare qu'un loup blanc. Outre qu'il a grandi au Liban, puis fait sa vie à la fois intime et académique entre la France et les États-Unis, il a une trajectoire intellectuelle singulière. À l'origine, c'est un historien des religions, spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, mais au cours du temps, il est devenu un penseur du numérique. Il raconte toujours que la jonction s'est faite quand l'université Johns Hopkins, où il enseignait, plutôt que d'augmenter son salaire, lui a proposé un cadeau, et qu'il a demandé un cube. Cube, c'était l'ordinateur que Steve Jobs a fabriqué pendant la période où il avait quitté Apple pour créer Next. Et c'est quand Millet s'est retrouvé face à cet objet étrange et assez futuriste qu'il s'est dit qu'il y avait quelque chose à penser dans l'informatique. Et il s'y est mis. Il a beaucoup lu, ensuite il a publié plein de livres sur plein de sujets, et notamment un qui s'appelle « La grande conversion numérique » et qui a fait un peu de date parce qu'au milieu des années 2000, il y racontait l'avènement de la société numérique comme l'avènement d'une nouvelle religion. Et c'est par ce livre, je crois, que je l'ai rencontré.
Xavier de la Porte.
Alors j'aime beaucoup écouter Millet parce que j'ai l'impression que son esprit fonctionne comme le web, par des liens hypertextes. Quand il parle, on a le sentiment que son cerveau clique sur un mot et ouvre une nouvelle page. Alors, c'est pas toujours très simple à suivre, mais c'est assez beau à voir parce qu'on est sans cesse déplacé. Aujourd'hui, Millet a 63 ans. Par un concours de circonstances, j'ai appris qu'il était à Paris, où il n'avait pas mis les pieds depuis 2 ans à cause du Covid. Et donc, je l'ai appelé et je lui ai dit « Bon, si je te demandais de quoi tu as envie de parler en ce moment, tu dirais quoi ?»
Le code a changé.
Il m'a répondu un truc bizarre. Je voudrais défendre un Internet bête. Ça m'a tout de suite plu. Dans un monde où on n'a plus que l'intelligence à la bouche, ça m'amuse que Millet, qui n'est pas du tout un technophobe et qui est un méga intello, veuille défendre un Internet bête. Je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'est ça qui est intéressant. Du coup, quand on s'est mis à discuter, je lui ai posé une première question un peu abrupte. Quand tu dis que tu veux un Internet bête, ça veut dire... Donc, que tu trouves qu'il est trop intelligent ?
À mon avis, il est trop intelligent dans le sens qu'on donne à ce mot aujourd'hui. Moi, je crois à l'Internet bête, c'était l'Internet qu'on avait connu à un certain moment. On n'était pas sans cesse sous le régime de la recommandation, le régime de la géolocalisation. On pouvait aller se promener relativement paisiblement, découvrir des choses intéressantes ou pas, peu importe. Il y avait des sites... Et il y avait très très peu d'applications mobiles comme on a aujourd'hui. Peut-être je suis à l'ancienne, je suis un vieux. Je trouve que c'est une vraie perte pour nous tous dans l'expérience et dans la découverte. Parce que là, on est dans une sorte d'emprisonnement, de perspective. Il est extrêmement difficile de trouver des choses qui sont différentes, qui nous posent des défis, qui nous suggèrent des challenges pour aller penser, regarder, lire autrement et regarder autre chose. On est dans des formes du même à l'autre, si j'ose dire. Moi, je le vis puisque je vis une vie un petit peu nomade entre les États-Unis et Paris. J'utilise très peu Google aujourd'hui, mais quand même, je suis obligé de l'utiliser parce qu'on n'a pas toujours le choix. Quand j'arrive à Paris, dans mon appartement, pendant une semaine, j'ai droit à tout ce qui est de l'ordre de la maladie. À cause de mon nom, Millet, ils sont convaincus que je me trompe dans l'orthographe et ils me proposent des choses avec toutes les pharmacies du coin. Et un mois plus tard, je rentre chez moi à Baltimore. Évidemment, malade en Amérique, ça passe pas, je deviens My Lady. J'ai tout ce qui est cosmétique. C'est quoi? C'est la géolocalisation associée à la fréquence. Et un certain fort de marketing, c'est ça l'intelligence en partie aujourd'hui.
Ok, c'est pas complètement faux, on en fait tous l'expérience. La pub mal ciblée, la vidéo mal recommandée, c'est notre quotidien. Et c'est vrai que ces systèmes reposent sur des procédures qui se veulent intelligentes, dans la mesure où elles brassent plein de données pour être au plus près de ce qu'ils pensent qu'on cherche. Bon, par ailleurs, je suis assez d'accord avec Millet que c'est enfermant. Pour ma part, je trouve de plus en plus insupportable la difficulté qu'il y a à avoir accès depuis Google à des liens autres que francophones. Parce que mon adresse IP me localise en France, parce que je fais des recherches en français le plus souvent, parce qu'il archive mes historiques et qu'il voit que je fréquente plus le web francophone, Google présuppose que je cherche un truc en France ou en français. Au point parfois de penser que je me gourre dans l'orthographe. Ça me rend dingue. Néanmoins, même si je suis assez d'accord avec lui, je dis à Milad que je le trouve un peu de mauvaise foi. En fait, c'est pas un Internet bête qu'il veut, c'est juste un Internet qui soit vraiment intelligent.
Oui, mais moi je dis bête parce que la bêtise est un droit aussi. On a droit à aller découvrir des choses sans qu'on ait certains critères qui sont prédéterminés par toute une série de calculs, de computations, de fréquences qui vont rassembler la langue, la culture, le lieu, les liens, le carnet d'adresses et ainsi de suite. Et dans ce sens-là, le mot bête n'est pas péjoratif pour moi.
Je comprends mieux. Dans la tête de Milad, un Internet bête, c'est un Internet qui nous laisse peinard. Un Internet qui ne prétend pas nous connaître mieux que nous et qui donc nous laisse une marge supérieure de liberté que ne le fait une technologie qui, en prétendant nous connaître, nous enferme en fait dans des catégories pas très fines. Au fond, c'est un Internet qui fait son truc sans trop tenir compte de nous. J'ai l'impression que Milad critique surtout une certaine prétention à l'intelligence. Et cette prétention, c'est vrai qu'elle se trouve partout aujourd'hui. À commencer dans l'intelligence artificielle avec laquelle on nous rebat les oreilles. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions numériques au milieu des années 2000, on ne parlait quasiment pas d'intelligence artificielle. Enfin, l'expression existait bien sûr, mais on l'utilisait quand on faisait de la prospective à long terme ou alors de la SF. Et même dans ce cas, il y avait quelque chose d'un peu has-been dans l'expression. C'est ce qui fait que quand est sorti IA de Spielberg en 2001, je ne suis pas allé le voir.
C'est quand ton anniversaire ?
J'ai jamais eu d'anniversaire.
Son nom est David.
Touchez-le,
ça fout les boules.
Oh, il a l'air si réel.
Dans un avenir lointain, à une époque de machines intelligentes, c'est le premier enfant robot programmé pour aimer et vivre au sein d'une famille. Son histoire parle d'humanité et de son voyage pour trouver sa place parmi les hommes et les machines.
Je suis un petit garçon.
Tu es un vrai petit garçon.
En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un.
En 2001, je trouvais ces problématiques un peu nazes. Soit dépassées, soit trop futuristes. Bon, évidemment, je ne dirais pas la même chose aujourd'hui. La question que je me pose, c'est... quand le mot d'intelligence associé aux machines est-il revenu dans le game? Quand c'est devenu à nouveau sérieux de réutiliser ce mot? Alors, si je fais un effort de remémoration, je dirais que c'est d'abord l'adjectif qui est revenu avec les objets connectés, qui sont vite devenus des objets intelligents. Puis il y a eu les villes intelligentes, les fameuses smart cities, et puis plein d'autres trucs qui est intelligent. Comme si l'adjectif avait préparé le terrain au comeback de l'intelligence substantivée, de l'intelligence comme nom commun. J'ai l'impression que c'est par des objets périphériques que petit à petit, au cours des années 2010, on s'est remis à parler sérieusement d'intelligence artificielle au sens générique du terme. Bon, en fait, il y a des raisons scientifiques à ça. Pendant longtemps, les progrès de la discipline n'ont pas été vraiment spectaculaires. L'intelligence artificielle, ça marchait pas hyper bien. La méthode majoritaire, ça consistait en des procédures qu'on dit formelles, en gros à faire apprendre des règles à la machine. Alors, ça marche pas mal pour des activités qui reposent sur le calcul, les échecs par exemple. On apprend à l'ordinateur les règles des échecs, et grâce à sa puissance de calcul, il optimise ses choix stratégiques. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, dès 1996, Deep Blue, un ordinateur, bat Kasparov aux échecs. En revanche, pour des tâches comme la reconnaissance d'images, la méthode formelle marche beaucoup moins bien. Ce qui est assez marrant, parce que ça paraît plus simple de reconnaître un chat sur une image que de battre Kasparov aux échecs. Mais pour l'ordinateur, c'est l'inverse. Si on lui dit, ça c'est la méthode formelle, voilà, un chat, c'est comme ci et c'est comme ça, et qu'on lui demande de comparer une image à cette définition, eh ben, il se plantera très souvent. Il suffit qu'on ne voit pas une partie du chat, que le chat soit de dos, de profil, etc. Et donc, depuis longtemps, des gens travaillent avec d'autres méthodes. Le principe de ces autres méthodes, c'est, bon, il vaut mieux que ce soit la machine qui se donne ses propres règles et qui trouve sa propre définition du chat. Alors, on lui montre des images de chat, on lui dit ce qu'est un chat et ce qui n'en est pas un, et puis au bout d'un moment, l'ordinateur finit par se faire son idée du chat. Je caricature énormément, mais les réseaux de neurones, par exemple, fonctionnent sur ce principe. Alors, pendant longtemps, même si elle fonctionnait mal, hein, la méthode formelle fonctionnait quand même mieux que le réseau de neurones et d'autres méthodes. Sauf qu'en 2012, le truc s'est inversé et les réseaux de neurones se sont mis à avoir de meilleurs résultats que la méthode formelle. Et ça, ça a fait faire un bond considérable à tout le champ de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça a permis qu'on parle à nouveau, sérieusement, d'intelligence artificielle. L'exemple typique, c'est le Go. Parce que quand Kasparov a été battu par Deep Blue, on a dit « Bon, ok, c'est impressionnant, mais les échecs, c'est du calcul. » Quand un ordinateur battra un bon joueur de Go, on en reparlera parce que c'est tellement plus intuitif, le Go, tellement plus humain. Et puis paf. En 2016, en ayant recours à des méthodes qui reposaient sur des algorithmes apprenants, AlphaGo, la machine de Google, bat un des meilleurs joueurs de Go au monde. Et à partir de là, on ne rigole plus du tout avec l'intelligence artificielle. Alors Miled, avec son internet bête, il a l'air de vouloir critiquer l'emploi du terme d'intelligence pour désigner tout ça. Bon, pourquoi pas. Mais il y a un problème. Si les vrais succès sont récents, l'idée que les machines pourraient être intelligentes ne date pas d'hier. Dès le début de l'informatique moderne, c'est-à-dire juste après la Deuxième Guerre mondiale, on parle d'intelligence. Alan Turing, le père de l'informatique moderne, en parle à la fin des années 40. Et dès 1956, il y a à Dartmouth une conférence sur l'intelligence artificielle à laquelle participent les plus grands savants de l'époque, Marvin Minsky, Claude Shannon, Herbert Simon. Bref, l'intelligence en informatique, c'est une vieille histoire. Et quand je dis ça à Miled, il me répond « Oui, mais moi je pense qu'on la raconte mal cette histoire. » Et il se met à me la raconter autrement.
Si on lit le texte premier, c'est 1948 de Turing, Computing Machinery and Intelligence. Le titre est très important. Le mot intelligence ne paraît que dans le titre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la machine pensante. Thinking machine. Ça, c'est remarquable. Parce que penser, c'est pas la même chose. Un peu plus tard, avec l'école de Dartmouth, c'est Artificial Intelligence dans le titre. La première phase, c'est Machine Learning. Et je crois que c'est là où il y a un problème qui s'est installé très très tôt. L'intelligence, ça reste quelque chose qui nous échappe. On n'a pas de définition consensuelle, qu'elle soit scientifique, en sciences humaines ou en sciences sociales. Par contre, l'apprentissage, on connaît très très bien. Si on avait choisi de parler d'apprentissage au sens profond du terme, on aurait beaucoup de choses à discuter et à découvrir même, au lieu de focaliser sur l'intelligence comme si c'est quelque chose de quasiment chamanique, miraculeux. Et c'est là, je crois, où on est dans une sorte de situation un petit peu indécise, de ce point de vue-là. Oui, sauf pour le marketing, c'est très puissant.
C'est très important de reconnaître la puissance marketing de l'expression d'intelligence. Avec son internet bête, je ne suis pas sûr que Miled puisse financer un projet de recherche ou une start-up. Bon, néanmoins, c'est super intéressant de noter que deux des textes fondateurs de l'informatique emploient le terme d'intelligence. Ok, mais pour parler en fait d'autre chose, d'apprentissage dans le cas de la conférence de Dartmouth et de pensée dans le cas de Turing. Eh ben, puisque Miled a l'air de dire que intelligence et pensée, c'est pas la même chose, c'était quoi une thinking machine pour Turing ?
Turing, à mon avis, il était partagé suivant deux modèles qui ont cohabité et qui existent aujourd'hui toujours. Un qui est complètement formaliste, où il s'agit de trouver des méthodes formelles. Il va utiliser les jeux, les échecs, tout ce qu'on connaît par cœur, si tu veux, de ce qui est du côté formaliste. Et en même temps, il va dire peut-être le plus intéressant et à la longue le plus pertinent, c'est de comparer la machine pensante à l'enfant. Ce que Turing veut, c'est que l'informatique est une enfance sans fin.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'elle n'arriverait jamais à l'âge adulte.
Parenthèse, Spielberg est vraiment un génie.
C'est le premier enfant robot programmé pour aimer et vivre au sein d'une famille.
Parce que ce qui est fort dans IA, son film de 2001, c'est que l'intelligence artificielle est précisément un enfant. Comme si Spielberg avait lu Turing. Bon, ce qui est tout à fait possible par ailleurs. Alors, je trouve ça très beau, cette idée de l'informatique comme une enfance sans fin. Ça reviendrait à dire que l'informatique est à la fois extrêmement prometteuse, cognitivement c'est quand même extraordinaire un enfant, mais qu'elle n'est jamais finie, qu'elle sera toujours en train d'apprendre, en train de se fabriquer, de grandir, qu'elle ne sera jamais mûre, jamais complètement autonome. La machine jamais adulte, c'est une idée très séduisante je trouve. Mais il faut quand même que Miled m'éclaire. Si on admet ça, qu'est-ce que ça permet de mieux comprendre dans la manière dont fonctionne l'informatique ?
Il y a une certaine forme de quête de l'absolu associée à la computation. Elle veut pouvoir tout représenter. Elle va pouvoir tout transformer ou convertir dans le sens technique du terme en forme computationnelle et elle réussit pas mal, hein.
J'avais jamais vu les choses comme ça. Et en fait, c'est assez logique. Si on considère avec Turing que l'informatique est une enfance sans fin, on comprend mieux qu'elle partage avec l'enfance une sorte de démesure, de gloutonnerie qui l'incite à absorber le monde tout entier, à tout transformer en calcul, à tout coder, les textes, l'image, le son, tout est numérisable et numérisé, et vise à l'être. C'est marrant parce que ça me rappelle l'épisode sur les parfums où je racontais l'histoire de cette intelligence artificielle développée pour aider les parfumeurs à créer. Et à la fin de l'épisode, j'avais interrogé un type chargé de la prospective et il avait dit un truc qui m'avait laissé pantois.
Il y a des technos qui me feraient rêver et qu'on n'a pas, hein, mais qui sont plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils sont plutôt dans le domaine de la dématérialisation du parfum.
Quoi ? La dématérialisation du parfum ?
Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour sentir, vous avez besoin de respirer un gaz, en fait. Mmh. Vous avez besoin d'avoir le liquide, vous avez besoin d'avoir une matière première qui stimule vos cellules de la bouche et du nez afin de vous faire sentir l'odeur. Comparé à la vue, l'ouïe, où en fait, avec un écran, avec un micro, etc., on arrive à transporter à distance, de manière dématérialisée, le son ou l'image, le goût et l'odeur, on n'en est pas encore capable.
Ce que j'avais trouvé dingue là-dedans, c'est que le type rêvait de trouver le moyen de numériser le parfum. C'est-à-dire de numériser l'odorat, qui est quand même un sens très matériel, puisque c'est une affaire de particules. Comme si rien ne devait échapper à la machine. Et pour moi, ça fait écho à ce que dit Milhed quand il parle de quête absolue à l'œuvre dans la computation. Oui, il y a une démesure, il y a un hubris là-dedans, et c'est pas inintéressant de le ramener à l'idée de Turing que l'informatique est une enfance sans fin. Donc, si je résume, il y aurait une sorte de malentendu. Pensée ou éternelle enfance chez Turing, apprentissage à Dartmouth, en fait, c'est ce qu'ont en tête les grands théoriciens quand ils parlent d'intelligence. D'accord, mais ceux-là ne sont pas les seuls à avoir employé le mot. Il me semble qu'un autre génie et une autre figure tutélaire de l'informatique, John von Neumann, a aussi employé le terme. Ou pas loin.
Von Neumann, quand même, était toujours très très hésitant, malgré ses tendances extrêmement, comment dire, mathématiques, formelles et ainsi de suite, à faire le saut vers l'intelligence. Il dit que ce qui fait la puissance de l'informatique, c'est qu'elle fait des choses tout à fait puissantes avec le plus petit nombre de symboles. Mmh.
Bon, là j'ai fait comme si j'avais compris. Mais en fait, sur le moment, j'ai rien compris. Même maintenant, je suis pas sûr de voir en quoi cette histoire du plus petit nombre de symboles empêche de parler d'intelligence. D'ailleurs, de quel symbole parle-t-il ? Bon, j'avoue que je suis un peu largué. Dans ces cas-là, ma méthode, c'est d'avancer. Donc continuons à remonter le fil de tous ces théoriciens de l'informatique qui ont vu les problèmes que posait le terme d'intelligence appliqué à des ordinateurs. Une autre figure de l'informatique à son importance dans cette histoire, c'est Norbert Wiener. Norbert Wiener, il est considéré comme le père fondateur de cette science compliquée qui est la cybernétique. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors même que le travail de Wiener est une des références dans ce champ de recherche de l'intelligence artificielle, eh ben, lui-même, il trouvait le terme problématique. Et pour une raison à première vue assez étrange.
Il a pointé très très vite dans un livre remarquable qui s'intitule God Golem Inc., Golem, hein, qu'il y avait un problème de récit qui serait associé à la manière dont on va vivre avec ce qu'il a appelé les machines autonomes.
C'est-à-dire, c'était quoi le problème ?
C'est-à-dire, on va toujours être poussé par le pouvoir de nos croyances, de nos héritages, vers le modèle du golem et des modèles bibliques, alors que lui, il trouve ça assez limite.
Le modèle du golem, c'est quoi ? Bon, c'est celui de l'être artificiel, humanoïde, qui dans la mystique juive est créé à partir de l'argile pour assister la personne qui l'a créé. C'est une figure super importante du folklore judaïque, il y a plein de commentaires, plein de contes, de récits qui la mettent en scène. Ça, ok. Mais je vois pas très bien en quoi cette figure du golem est opérante dans la manière dont on conçoit notre rapport avec les machines autonomes.
On a ça dans presque tous les films de science-fiction. On crée une machine, cette machine est intelligente. Dans un premier temps, elle va regarder son créateur et va l'adorer. Après, elle va essayer de l'améliorer. Puis après, elle se rend compte que c'est un exercice futile, elle va essayer de l'éliminer. Hollywood a gagné beaucoup d'argent avec un scénario aussi simple que ça.
Si je comprends bien, Wiener préfère parler d'autonomie que d'intelligence parce qu'il sent que la notion d'intelligence nous renvoie au modèle biblique du golem et donc à une concurrence entre le créateur et sa créature. Si on s'en tient à l'imaginaire, ben, on a du mal à lui donner tort. Quand Millet dit que c'est le ressort scénaristique d'un nombre considérable de films, bah évidemment, il y a plein de titres qui me reviennent en tête. Le premier auquel je pense, c'est War Games, 1984. L'ordinateur qui est au bord de déclencher une guerre nucléaire parce qu'il confond le jeu vidéo et la situation réelle. Bon, heureusement, ça finit bien.
Mes respects, professeur Falcon.
Hello, Joshua.
Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Si on faisait une petite partie d'échecs.
Moins euphorique, il y a évidemment la série des Terminator.
Je deviens folle. Tu l'as tué, comment peut-il se relever?
Ce n'est pas un homme, c'est une machine.
Des êtres comme ça, ça n'existe pas.
C'est vrai, pas avant 40 ans.
Tu veux dire que tu viens du futur?
Tiens, le premier Terminator, c'est 1984, comme War Games. Si je calcule bien, le futur dont parle Sarah Connor, c'est 2024. Marrant. Bon, plus récemment, je pense à Ex Machina, même fable d'une intelligence artificielle qui se retourne contre son créateur.
Tu crois qu'on peut me débrancher?
Ça ne dépend pas de moi.
Pourquoi ça dépend de quelqu'un? Il faut que tu m'aides.
Un jour, les IA nous considéreront comme des singes se tenant debout, fin prêt pour l'extinction.
C'est étrange d'avoir créé quelque chose qui te déteste.
Tu faisais quoi avec Ava?
Ça finit pas très bien pour les humains, tout ça. C'est intéressant de se dire, comme le fait Wiener, que parler d'intelligence à propos des machines active immanquablement un préjugé monothéiste qui place la relation sous le vieux paradigme du rapport entre créateur et création et qui nous met dans une position de rivalité avec la machine. C'est vraiment hyper intéressant. Et puis, c'est pas simplement opérant dans la fiction. Dans le réel aussi, on ne cesse de se mettre dans cette position. Et je pense au monde du travail. Régulièrement, revient le débat de savoir à quelle échelle de temps nous serons remplacés dans toute une série de tâches par les robots. Bon, c'est pas forcément faux. Mais en vrai, ce remplacement des humains par les machines, il a pas commencé hier. Et puis, ce remplacement, il est peut-être dramatisé par l'intelligence qu'on attribue à ces machines. Parce que soudain, elles rivalisent sur le terrain qu'on a longtemps considéré comme le seul nôtre, celui de l'intelligence. Alors que si on y réfléchit, les machines qu'on construit aujourd'hui sont certes capables de faire autre chose ou faire mieux que les machines non informatiques, mais leurs aptitudes, elles sont encore hyper localisées. Une machine, elle peut aujourd'hui diagnostiquer un cancer plus vite et peut-être plus sûrement qu'un médecin, ok, mais elle n'est pas prête de pouvoir l'annoncer à un patient. Donc, est-ce que le terme d'intelligence convient pour parler de ces machines? Eh bien, c'est une question. Et si on parlait d'autonomie, comme Wiener le propose? Ce serait peut-être mieux, en effet. Bon, bien sûr, l'autonomie pose plein de problèmes. Par exemple, le fait que des labos aient expérimenté des robots qui puissent prendre des décisions de tir autonomes ou de manière autonome, bon, c'est un énorme problème. Mais en parlant d'autonomie des machines, et on le fait parfois avec les voitures, hein, par exemple, eh ben, on cernerait peut-être mieux la question, ou en tout cas, on se débarrasserait de tout un arrière-plan religieux qui est hyper encombrant. Ça commence à faire beaucoup. Wiener, Von Neumann, Turing, toute l'école de Dartmouth. Ça commence à faire beaucoup de pères fondateurs de l'informatique qui se sont méfiés de la notion d'intelligence. Bon, naïvement, je pensais que ça s'arrêterait là, mais imperturbablement, Milhed a continué à remonter le fil.
Herbert Simon était un très très grand informaticien, prix Turing, mais aussi prix Nobel en économie. Et lui, il pense un peu différemment. Pourquoi? Ce qu'il va essayer de penser, c'est penser à quel moment et comment l'arrivée de l'information en tant que matière, non pas comme figure ou métaphore, mais comme matière qui a ses propriétés, qui a ses qualités, qu'est-ce que ça va faire à la fois à la société, à la manière dont elle se structure et surtout à la construction et à la transmission du savoir.
Mais quel rapport avec l'intelligence là?
Mais l'intelligence est ancrée dans le traitement de l'information. C'est là ce que je trouve remarquable dans des gens comme chez Simon et d'autres. Ils ont compris qu'il faut réfléchir sur cette information pour pouvoir parler, si tu veux, d'une façon beaucoup plus cohérente, non pas juste figurative, de l'intelligence.
Ok, donc là c'est encore autre chose. Herbert Simon, il dit, si on veut parler d'intelligence, il faut travailler ce qui fait le propre de l'informatique. Et le propre de l'informatique, c'est une manière très particulière de traiter l'information, par des systèmes de compression, de décomposition, de recomposition, de transmission, etc. L'information a des propriétés matérielles, c'est là où il faut aller voir. Voilà ce à quoi invite Simon. Alors là, je fais juste une parenthèse. on se moque souvent de la passion française consistant à ne pas vouloir employer les mots anglais. Bon, de fait, c'est assez marrant que les Français soient les seuls à parler d'ordinateur. Les autres langues ont décliné plus ou moins le computer américain. On est les seuls aussi à parler d'informatique. En anglais, on dit « computing sciences », en espagnol, on dit « ciencias de la computación ». Mais finalement, avec notre manie, eh ben, on est peut-être plus proche du problème posé par Milhed. L'information et sa matérialité propre. Eh ben, c'est bien ça qui fait le propre de l'informatique, plus encore que la computation. Bon, cela dit, pour être tout à fait honnête, je vois pas en quoi insister sur l'information et sa matérialité permet de mieux penser la question de l'intelligence des machines. Bon, Milhed, évidemment, a une réponse.
Quand on regarde ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce sont des formes d'apprentissage basées ou bien sur un échantillon très très large de données, qui est traité par des algorithmes renforcés, pas renforcés, et ainsi de suite, ou bien, et ce qui émerge depuis pas très longtemps, c'est, il y a un mouvement scientifique assez intéressant qui dit, au lieu d'insister sur une sorte de gloutonnerie des données qui nourrit sans cesse ces machines à apprendre, peut-être il nous faut développer des algorithmes de désapprentissage. Ce qu'on appelle « unlearning » en anglais.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est-à-dire qu'il faut que l'algorithme oublie beaucoup de choses et aller vers le nombre le plus petit possible pour qu'il puisse construire certaines validations ou conclusions provisoires qui seront au fur et à mesure testées, démontrées, et ainsi de suite. Et du coup, il y a une tendance, mais qui n'est pas majoritaire pour l'instant, parce que les finances, les investissements sont dans de l'autre côté, si j'ose dire. Et là, je crois que c'est assez intéressant. Et
qu'est-ce que ça nous permettrait de faire, qu'on n'arrive pas à faire des algorithmes désapprenants ?
Beaucoup de choses. Tout d'abord, la question des billets.
Là, sur le moment, je me suis demandé ce que les billets de banque venaient foutre dans cette histoire. Mais j'ai compris que le bel accent de Milhed provoquait des diphtongues un peu étranges pour nous autres Français de la métropole. En fait, là, c'est pas de billets qu'il me parle, mais de biais, B-I-A-I-S. Et en parlant de biais, Milhed fait référence à une question essentielle qui est apparue ces dernières années quand on s'est mis à utiliser l'intelligence artificielle dans des domaines sociaux comme la justice, la police ou encore la reconnaissance faciale. On s'est aperçu qu'elle avait tendance à reproduire, voire augmenter, les inégalités à l'œuvre dans la société. Par exemple, on s'est aperçu qu'elle pouvait être raciste, parce que les algorithmes de prédiction employés dans la police, par exemple, incitaient à patrouiller prioritairement dans les quartiers noirs. Ce qui, mécaniquement, accroît encore les arrestations des Noirs. Et d'ailleurs, une ville comme San Francisco a, à la suite de ce constat, cessé d'employer ces solutions. On a observé le même type de biais dans les algorithmes qui aident à la décision judiciaire, ou même dans ceux qui font de la reconnaissance faciale. Et ouais, les faux positifs sont beaucoup plus nombreux avec les Noirs. C'est un effet terrible, qui est en partie dû aux données qui servent à entraîner les algorithmes apprenants. Et ça a ouvert tout un champ qu'on appelle la fairness en intelligence artificielle, la justice ou l'équité. Et l'idée de ce champ, c'est de trouver des solutions pour éviter ces biais, pour rendre l'intelligence artificielle plus juste, plus éthique. Alors mathématiquement, c'est hyper compliqué. Et en général, un des espoirs, c'est d'augmenter la qualité et le nombre des données qui permettent l'apprentissage de la machine. Mais Milhed, lui, il a l'air de dire qu'une nouvelle école de l'informatique essaie de créer des systèmes apprenants qui soient très économes en données et que ça permettrait de corriger notamment les biais, B-I-A-I-S, et pas les billets. Et je lui demande de m'expliquer.
Ce qui va créer les biais dans les algorithmes, c'est la masse des données. Et du coup, aujourd'hui, on est en train de fabriquer des méthodes pour essayer de les éliminer. Mais si on commence à faire apprendre avec le plus petit nombre d'échantillons, on élimine déjà un pourcentage très très important des biais qui sont introduits.
Et ça va complètement à l'inverse de ce qu'on fait
avec
du big data et tout.
Exactement.
C'est du small little data.
C'est le plus petit, c'est ça ce qui est intéressant.
Ouais, en effet, c'est intéressant. Mais des algorithmes qui sont entraînés avec peu de données, ils obtiennent de bons résultats ?
Souvent, les algorithmes sont plus efficaces parce que l'apprentissage sera intériorisé, si j'ose dire.
Mais c'est vachement intéressant, parce qu'on retrouve finalement un mode de fonctionnement qui est celui de l'intelligence humaine,
exact.
Qui est la montée en généralité. C'est comment, à partir d'une histoire, tu
construis... On va généraliser, exactement.
Passionnant. J'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce courant de l'informatique. Et l'idée que certains prennent à contre-courant, justement, la vague du big data pour aller vers une réduction du nombre de données, je trouve ça très beau. D'autant que Milhed ajoute quelque chose qui fait réfléchir.
Mais ça rappelle ce que Turing avait dit. Ce qui l'a intéressé en fait par la comparaison entre la machine pensante et l'enfant, c'est le côté, si j'ose dire, quasiment social. C'est-à-dire que l'enfant, au début, il entend, il écoute, il observe les gestes. Mais curieusement, après un certain moment, il va dire « Ah, comme maman, et là, je ne veux pas dire ça. » quand mon oncle est là ou je sais pas qui, je peux dire certaines choses. Il va pouvoir introduire des formes de discrimination en fonction du contexte des individus. Et c'est cette sociabilité qui est importante. L'apprentissage de ce point de vue-là, c'est là où il est, à mon sens, beaucoup plus puissant que les formes de l'intelligence qui sont aujourd'hui devenues quasiment des chamans. Hein.
Pendant que Millet parlait, je pensais à un cas très personnel. J'ai un enfant très chambreur, comme on dit dans le foot. C'est-à-dire qu'il aime se moquer des gens, depuis qu'il est tout petit. Et son problème dans la vie, c'est pas de trouver des blagues. Son problème, c'est de savoir évaluer le contexte pour, justement, distinguer avec qui il peut rire, de qui il peut rire, jusqu'où il peut aller, etc. Bon, il faut reconnaître qu'il y a encore pas mal de foirage dans son évaluation et que régulièrement, ça lui cause des torts. Son souci, donc, ce n'est pas la combinaison de données qui produit une bonne blague. Son souci, c'est l'apprentissage du contexte où cette combinaison va être efficace et ne pas lui causer de tort. C'est moins une question d'intelligence, dans le sens qu'on donne à ce mot dans la notion d'intelligence artificielle, qu'une question sociale. Donc, si j'en reviens aux machines, ça consiste à dire « c'est super qu'une machine puisse faire des trucs dingues, mais si on ne soigne pas la manière dont la machine est capable d'appréhender les contextes, eh ben, ça marchera jamais totalement comme on aimerait que ça marche. » On devrait y réfléchir quand on rêve de déléguer à des machines la capacité de déposer des plaintes judiciaires, comme on a appris récemment que les Chinois voulaient faire. Une plainte judiciaire, c'est pas simplement une combinatoire de données et de lois, c'est aussi un contexte. Un contexte qui peut être modifié par des émotions, par le moment politique, etc. Comment faire en sorte que les machines puissent tenir compte de ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de donner trop de crédit aux machines en les qualifiant d'intelligentes? Je pose la question à Mylène.
Ça nourrit tous les mythes, tous les fantasmes et en même temps toutes les inquiétudes. Si on parlait d'apprentissage, on a énormément de littérature, à la fois scientifique, d'expérience. Chaque famille qui a des enfants sait de quoi il s'agit.
Cela dit, je crois qu'une partie de la communauté dite de l'intelligence artificielle est assez d'accord avec ce que dit Millet. Déjà, hein, j'ai souvent entendu des ingénieurs et des chercheurs dire qu'ils préféraient parler d'apprentissage profond, d'apprentissage renforcé, enfin bref, de qualifier spécifiquement la méthode qu'ils emploient, parce qu'ils considèrent que ça rend mieux compte de ce qu'ils font que ce terme d'intelligence artificielle qu'ils trouvent non seulement vague, mais en plus un peu trop marketing. Ok. Admettons que notre mélange de crainte et de fascination envers l'intelligence artificielle soit une question de mots, et qu'en utilisant donc d'autres notions, on règle une partie du problème. Ok. Mais ça me paraît évacuer un peu vite une question. Pour la première fois dans notre histoire, c'est une machine qui apprend. C'est plus un autre humain ou un animal. Bon, déjà ça c'est assez troublant. Et c'est troublant notamment parce que cette machine fonctionne avec des langages informatiques, pas avec des cellules. Je soumets cette différence à Milad. Et il en pense quoi, lui ?
On n'a pas d'équivalent au code informatique dans notre histoire. C'est pas la vapeur, c'est pas l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, c'est quelque chose qui part de certaines formes de représentation et d'abstraction, qui peut intégrer des formes mathématiques, algorithmiques, ainsi de suite, mais ça reste un discours qui est lisible et accessible. Et je crois que c'est cette accessibilité, cette lisibilité, joue un rôle assez important. Ce qui explique à la fois tous les problèmes qu'on peut avoir avec le code informatique. Le code informatique, il n'est jamais achevé. Et du coup, ça peut avoir des failles qui sont des failles de sécurité. Et il faut toujours le revisiter. Il est introduit aussi des pratiques lettrées. On met des commentaires pour expliquer à quelqu'un qui viendra après nous, j'ai choisi telle ou telle astuce, telle ou telle méthode, mais peut-être elle n'est pas la meilleure. Et on voit très bien, à cause de cet aspect-là, on est devant une situation complètement différente, qui est explicitement active et puissante et qui est performative, mais qui reste aussi discursive. C'est pas des moteurs.
C'est ça, c'est d'accord. En fait, c'est pas des phénomènes physiques qui sont cernables, etc. C'est toujours un truc.
C'est toujours qui va et vient et qui est dans un contexte particulier. Okay. Et je crois que c'est unique dans notre histoire. C'est assez remarquable quand on y pense. Hein.
Autrement dit, le terme de machine n'est pas le bon pour Millet, parce que le fait que l'informatique repose sur le code, pour le dire vite, hein, des couches de langage de programmation, fait que ce ne sont pas des machines comme les autres. Bon, c'est vrai que quand une machine casse ou marche plus, hein, on change une pièce. Quand un programme ne marche pas, on réintervient par l'intermédiaire du code. On réécrit d'une certaine manière. Et d'ailleurs, comme le dit bien Millet, un code bien écrit est documenté par son auteur. Ce que Millet appelle joliment les pratiques lettrées. J'avais jamais vu les choses comme ça d'ailleurs. Des pratiques lettrées qui se glissent dans cette activité très mathématique qu'est la programmation informatique. Je comprends que pour quelqu'un comme Millet, qui par sa formation intellectuelle est très proche du texte, je comprends que ce soit très excitant. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça nous permet de mieux comprendre? Est-ce que ça nous permet d'envisager les choses différemment? Alors je pose la question à Milad, et il me donne pour réponse un exemple assez incongru.
Quand on regarde le problème qui se pose aujourd'hui avec la sécurité informatique, une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est l'attribution.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire à qui attribuer telle ou telle pénétration informatique sur un système.
Okay.
D'habitude, on dit c'est les Russes, c'est les Chinois, c'est les Coréens, c'est les Iraniens, mais on n'est jamais sûr. Mmh. Puis après, on découvre un an plus tard, c'est quelqu'un qui a utilisé le style russe pour faire croire. Moi, étant naïf, je dis, je connais ça par cœur. Quand on m'a fait étudier l'histoire de l'art, on m'a expliqué que dans les studios des grands maîtres, il y avait toujours un problème d'attribution avec le maître et ses disciples. On savait plus, est-ce que c'est Rembrandt ou c'est quelqu'un qui a travaillé avec lui? C'est le même phénomène. Et mais pourquoi on n'utilise pas ces méthodes-là?
Peut-être que certains le font déjà. Hein. On n'est pas forcément au courant de toutes les méthodes employées en sécurité informatique pour régler cette question de l'attribution. Mais bon, faut reconnaître que l'idée de Milad, elle est assez marrante. Aller chercher dans les méthodes mises au point depuis très longtemps par les historiens d'art pour attribuer l'étoile et les appliquer à l'identification des origines d'un programme. Bon, je sais pas très bien ce que ça voudrait dire concrètement, mais je trouve ça vraiment très beau. Là, je fais une parenthèse. C'est un truc que j'aime bien chez Milad. Cette manière d'aller chercher des inspirations ailleurs que dans l'informatique pour penser des problèmes informatiques. Bon, ça permet à mon avis de les envisager assez différemment. Je me souviens que, en plein milieu de la lutte très féroce autour des droits d'auteur, j'avais été frappé par la lecture du tiers-livre de Rabelais. Dans le tiers-livre, Panurge veut se marier. Mais il a super peur d'être cocu. Donc, il passe tout le volume à aller consulter des gens pour dissiper cette peur. Et un jour, on lui conseille d'aller voir un fou à Paris parce que ce fou a la faculté de résoudre les problèmes les plus compliqués. Et pour convaincre Panurge, quelqu'un lui raconte une histoire. Un jour, dans les rues de Paris, un pauvre a mangé son quignon de pain au fumet d'une rôtisserie où cuisaient des viandes. Voyant cela, le rôtisseur sort et il exige du pauvre qu'il le paye. « Ah, mais je t'ai rien pris, dit le pauvre. Tes viandes sont toujours là. » « Oui, mais sans mes viandes, répond le rôtisseur, ton pain n'aurait pas eu le même goût. » Alors les deux hommes se disputent, les passants affluent, mais personne ne sait à qui donner raison, au pauvre ou au rôtisseur. Alors, on va chercher le fou. On lui explique la situation, le fou écoute, et puis il se dirige vers le pauvre. Il lui demande de sortir les quelques sous qu'il a dans la poche, le pauvre s'exécute, le fou se dirige vers le rôtisseur, fait résonner l'argent à son oreille et rend les sous au pauvre. Alors, le rôtisseur est stupéfait. Il demande des explications et le fou lui répond « Eh ben, il a mangé au fumet de tes viandes, tu es payé avec le son de son argent. » Pourquoi j'ai pensé à ça pendant la controverse sur les droits d'auteur? Eh ben parce que le problème était le même. Est apparue avec l'informatique et Internet la possibilité de partager à très peu de frais des produits culturels, comme de la musique par exemple, puis les distribuer. Les ayants droit et l'industrie de la culture ont crié au vol. Bon, en réalité, il n'y avait pas de vol. Les soi-disant pirates étaient comme le pauvre de Rabelais. Pour autant, il n'était pas complètement illogique d'imaginer une forme de rétribution pour ceux qui avaient produit la matière originelle. Mais est-ce que cette rétribution devait être forcément financière? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses à imaginer, plus inventives, moins discriminantes, un peu sur le modèle du son de l'argent auquel avait pensé le fou? Bon, il en a été autrement, hein, c'est la rétribution financière qu'il a emportée avec les systèmes d'abonnement, de premium, etc. Et j'ai toujours trouvé ça triste. Mais j'en ai gardé une conviction. Il faudrait aller voir et lire les vieilles histoires et voir comment des problèmes analogues aux nôtres ont été résolus dans le passé. Je me suis toujours dit qu'on pouvait y trouver une source d'inspiration pour des modèles plus intéressants. Avec son histoire de toile de maître, et ben c'est à ça qu'invite Milad. Et j'avoue que ça me réjouit. Bon, fin de la parenthèse. Il faut revenir à notre problème d'intelligence. Finalement, si je comprends bien ce que raconte Milad depuis le début, c'est une question de mots, c'est une question de dénomination.
On n'a pas le vocabulaire qu'il faut pour désigner ce qu'on est en train de discuter. Le mot « machine » ne suffit plus, comme le mot « technique » pour moi ne suffit plus pour décrire. Parce que la technique, on a beaucoup d'histoires des techniques, mais soudainement on est confronté à quelque chose de notre nature, on reconnaît cet aspect-là, mais on n'a pas encore le vocabulaire. C'est pareil quand on a essayé d'utiliser le métavers au lieu de virtuel pour essayer de sortir de toute l'histoire du virtuel et ainsi de suite. Je crois qu'on est confronté à ça. Et ce manque de vocabulaire est problématique et symptomatique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en train de se faire et de se fabriquer, et il a une particularité, il dit et il fait en même temps. Verum et factum, comme on disait en latin, et c'est assez puissant. On n'a pas eu beaucoup de choses comme ça dans le passé. Il y a les juges qui peuvent faire ça, il y a les soldats, et soudainement on a le code qui fait, mais d'une façon différente, parce que on peut être un hacker qui a 12 ans, On peut être une très grande entreprise avec je sais pas combien de milliers de codeurs. Ils peuvent agir, ils peuvent intervenir. Ça change un peu la donne.
C'est drôle parce que ce parallèle entre les soldats et les codeurs me rappelle un passage que j'ai lu dans le grand livre de Shoshana Zuboff, L'âge du capitalisme de surveillance. C'est un début de chapitre assez chelou où elle parle de la manière dont les conquistadors espagnols se comportaient avec les natifs américains. Quand ils tombaient sur un peuple, les soldats leur lisaient un long texte qui leur imposait de se soumettre à la fois à la couronne et aux dieux chrétiens, sous peine de les éliminer. Alors évidemment, les soldats déclamaient ce texte en espagnol, évidemment les Amérindiens ne comprenaient rien, ceux qui se rebellaient, on les passait au fil de l'épée, et les autres, on considérait qu'ils avaient accepté les conditions de soumission énoncées dans le texte. Ce qui intrigue Zuboff, c'est le côté très formaliste de cette démarche des Espagnols. Pourquoi s'emmerder à lire ces textes si la finalité est la même, piller ? Et elle fait une comparaison assez marrante avec les conditions générales d'utilisation qu'on nous présente quand on s'inscrit sur une plateforme. Bon, aujourd'hui, c'est pareil avec les formulaires d'acquiescement aux cookies. Ces trucs, on les accepte toujours sans les lire, parce que ça prendrait trop de temps, parce que souvent on n'y comprend rien. Et au final, on se soumet à l'exploitation de nos données. Zuboff dit, ben voilà, les époques changent, mais l'impérialisme a des méthodes qui restent à peu près les mêmes. Bon, j'y vois comme une similitude avec ce que raconte Millet sur la performativité du code informatique, qui dit et fait en même temps, comme le soldat. Mais bon, puisqu'on en est à regarder dans les particularités qui font le code informatique, je demande à Millet s'il y a d'autres caractéristiques des programmes informatiques qui font que la notion d'intelligence est inadéquate pour nommer leur performance. Et là, il me sort un truc auquel je m'attendais pas du tout.
Le problème le plus difficile des algorithmes, soi-disant intelligents, c'est oublier.
Il paraît que c'est très difficile en informatique de faire.
Ils n'oublient pas. Ce qu'ils oublient, ils effacent. Ils disent, on ne va pas regarder ce truc après 3 essais. Mais il n'a pas de code d'oubli.
Pourquoi c'est si important d'oublier ?
Parce que si on se rappelle de tout, on devient des monstres. Et l'oubli reste presque un des rares privilèges des humains. Les algorithmes, pour l'instant, ils n'arrivent pas à coder l'oubli.
Ce que dit Millet me rappelle une nouvelle de Borges, Funès ou la mémoire. Alors, je crois que je l'ai déjà cité dans un épisode sur l'archivage de l'Internet, peut-être, mais bon, c'est pas grave d'avoir oublié, parce que justement, cet exemple sert à montrer que l'oubli, c'est vital. Donc, dans Funès ou la mémoire, Borges raconte l'histoire d'un jeune homme qui est doué d'une mémoire extraordinaire, presque absolue. Au début, ça lui sert, mais très très vite, ça devient une tare, puisqu'il passe plus de temps à se remémorer ce qu'il a déjà vécu qu'à vivre. Sa grande mémoire l'empêche de penser, et il finit par mourir, submergé par ses souvenirs. Alors si on tord un peu le truc, ça veut dire qu'on ne peut pas être un humain intelligent sans l'oubli, sous peine de devenir un monstre. Et si on rapproche Borges de ce que raconte Millet, ça pourrait vouloir dire que la mémoire de l'informatique, enfin son incapacité à oublier, serait un obstacle à lui faire atteindre l'intelligence telle que nous la comprenons. Ok, donc à ce moment-là de la discussion, je suis convaincu par Millet quant au fait que l'usage du mot intelligence est problématique pour définir la manière dont ces machines pensent et qu'il faudrait trouver d'autres mots et qu'une partie des soucis que nous avons avec ces machines apprenantes, le mélange de crainte et de fascination qu'elles exercent sur nous, provient de l'usage de ce terme d'intelligence. Notamment parce que ça engendre des rapports de rivalité, par exemple, qui auraient peut-être moins de raison d'être si on utilisait d'autres termes. Mais est-ce le cas pour l'ensemble de l'humanité ? Est-ce que c'est pas un problème occidental ? Il me semble que d'autres civilisations ont d'autres rapports à ces êtres étranges que nous sommes en train de créer. Je pense notamment à la Chine et au Japon. Et donc, je demande à Millet si je me trompe. Bon, il a l'air d'accord avec moi.
On le voit même dans le vocabulaire concernant l'intelligence artificielle. L'Europe a choisi la dignité humaine et l'éthique. L'Amérique, la démocratie et l'éthique. Les Chinois, c'est l'harmonie. Et on voit tout de suite qu'on est ailleurs.
Mais tu dis, ils ont choisi dans quoi ? Dans quel type de texte ?
Dans le texte officiel de l'État sur comment on doit traiter avec l'intelligence artificielle.
Et comment tu interprètes le choix de l'harmonie ?
C'est très simple, c'est la tradition qui date de l'Antiquité en Chine. C'est l'harmonie qui est le rapport avec les vivants de notre environnement. Et nous, c'est l'humain, c'est la dignité humaine qui est dominant. C'est assez intéressant.
Bah oui, c'est intéressant, parce que ça montre que le rapport qu'on entretient à ces entités, que sont les machines, est lié au rapport que nous entretenons avec d'autres êtres, vivants notamment. Si en Chine et au Japon, on est plus enclin à chercher l'harmonie dans notre rapport aux machines, c'est parce que c'est déjà ce qu'on prône en fait dans le rapport aux autres êtres vivants. Ce qui est évidemment moins le cas dans le monde occidental, où on pense à partir de l'homme, où on va chercher donc à créer des êtres qui respectent des règles éthiques qui mettent l'humain au centre. D'ailleurs, c'est pas complètement un hasard si ce sont des éthologues japonais qui ont révolutionné l'étude du comportement animal en osant les premiers parler de culture animale. En fait, ça les effrayait pas du tout de parler de culture pour les animaux, alors que nous autres occidentaux, on envisageait la culture comme une propriété humaine. Comme ça n'effraie pas les Japonais de créer des robots androïdes. Alors que chez nous, un robot qui ressemble à un humain, ça nous fait flipper. Tout à coup, on se sent menacé. Encore un signe de l'inconscient monothéiste qui est à l'œuvre dans nos relations avec les machines, comme aurait dit Wiener. Ça veut dire que derrière l'emploi des mots, c'est une question très importante qui se pose. C'est celle de la relation qu'on imagine avoir avec ces entités qu'on construit. Millet confirme.
On doit pouvoir penser notre cohabitation avec des êtres, que ce soit les machines soi-disant autonomes et intelligentes, de la même manière responsable. Mmh. Après, est-ce qu'on va faire quelle sorte d'éthique? Ça reste à voir. Hein, la machine informatique n'est pas du tout comme un arbre.
Non, c'est sûr. Pensez donc un rapport à d'autres entités, mais en tenant compte des spécificités de ces entités. Ah bah c'est le défi. Mais en écoutant Millet, je me demande pourquoi il est si difficile pour nous d'imaginer une relation apaisée avec les machines, au-delà même des mots par lesquels on les désigne.
À cause de la nature de cet être, qui n'est pas nécessairement vivant, mais qui commence à avoir des formes d'autonomie.
Qui n'a pas de corps.
Qui n'a pas de corps, mais qui peut être un peu présent et qui prend parti sur nos corps, de façon assez impressionnante.
Cette question du corps est absolument passionnante. Je repense à Ex Machina, le film dont je parlais tout à l'heure. Il traite cette question de manière très intéressante. D'abord, l'intelligence artificielle est incarnée dans un corps féminin, mais ce corps garde une partie machinique tout à fait visible. Les jambes, les bras, le ventre, le cou sont dans une matière transparente qui laisse voir les câbles. Le défi cinématographique et scénaristique, c'est de rendre cet être séduisant, aux yeux du personnage et du spectateur, tout en ne cachant pas sa part artificielle. Et le fait que le réalisateur y arrive, c'est ça qui est troublant. Ensuite, de manière un peu plus théorique, la question du corps est présente dans la mesure où une des motivations de cet être pour s'échapper, c'est de connaître une expérience physique, si on peut dire. L'IA est dotée de plein de capteurs, plein de senseurs, mais elle est enfermée dans une pièce, et donc ils ne servent pas à grand-chose. En gros, elle sait tout en théorie, mais elle n'a rien expérimenté. Et donc, pour être vraiment intelligente, il faudra qu'elle en passe par le corps. Ça dit beaucoup, ça. Et évidemment, ça complique encore les relations avec ces entités. Mais avant qu'on en termine, il y a un dernier point que je voudrais aborder avec Millet. Ce qui me semble encore compliquer notre relation avec l'intelligence artificielle, c'est la question de la hiérarchie et de la délégation. Qui est au-dessus de qui ? Qu'est-ce qu'on accepte de déléguer à la machine? Sur quel mode on accepte de déléguer certains aspects de nos vies à des programmes informatiques, que ce soit pour attribuer une place en fac, choisir quand il faut freiner ou autre?
On a beaucoup de décisions qui sont automatisées aujourd'hui. On a déjà délégué certaines choses. Mm-hmm. Mais il y a d'autres aspects, d'autres dimensions de notre vie, qu'elles soient sociales, politiques ou autres, pour lesquelles on réserve le choix humain. Que ce soit pour notre vanité, si j'ose dire, dans le sens que l'humain veut être libre dans ses choix, malgré le fait que peut-être ce n'est pas nécessairement le cas. Il reste que il faut qu'on trouve des modalités de délégation vers des formes d'autonomie. Or, il se trouve qu'on a des modèles anciens qui sont assez intéressants.
Lesquels ?
Je prends l'exemple classique qui est cité par les anciens, c'est d'expliquer comment Rome a géré Athènes. Rome, parce qu'elle était souveraine, elle a laissé certaines cités grecques vivre selon leurs anciennes constitutions. C'est l'affirmation de la souveraineté de déléguer quelque chose.
On peut donc affirmer sa souveraineté tout en déléguant. Ça, c'est assez paradoxal. Mais bon, voilà comment l'histoire peut donner des modèles ou au moins des manières de réfléchir un peu complexes, un peu différentes. La souveraineté n'est pas forcément une hiérarchie, ça peut être une forme de coexistence sans cesse renégociée. Voilà, ça donne à penser pour notre vie avec les machines. À la fin de cette discussion avec Millet, je comprends mieux sa défense d'un Internet bête. Bête, ça veut pas dire stupide ou incapable. Bête, ça veut dire pas intelligent dans le sens que nous donnons à ce mot pour nous-mêmes, mais autrement intelligent. Et donc, pour décrire les aptitudes d'ordinateur, il faudrait mieux trouver d'autres mots qui non seulement sont plus proches de la manière dont ils fonctionnent, mais qui nous permettraient de nous débarrasser de tout ce qui va avec cette notion d'intelligence. C'est drôle parce que ça me fait penser à un livre que le critique d'art Jean-Yves Jouannet avait écrit sur l'idiotie en art. Il défendait à propos des artistes à peu près la même chose que Millet avec les ordinateurs. En gros, Jouannet disait que l'art moderne n'était ni bête ni intelligent, mais idiot, au sens où il était singulier, autre, où il inventait une nouvelle manière de faire, où il réinventait. Il faudrait que je relise l'idiotie de Jouannet. Merci beaucoup à Millet Douéhi pour cette discussion. À la prise de son, c'était Juliette Delperrou. Au mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Réalisation, Gaëtan Colli. Le Code a changé est un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.